BD Culte, rendez-vous mensuel autour de l'exploration d'une planche, d'une séquence iconique de l'art de la bande dessinée, le 9e art. Alors là, nous allons parler d'Edgar P. Jacobs et sa série Blake et Mortimer, qui a été à l'actualité depuis 2021, puisque ses héros ont maintenant 75 ans. Nous avons eu une expo au Centre Belge de la BD à la sortie de la suite, puisque nous sommes sur une marque, hein, même si Jacobs est disparu. Nous avons bien entendu là, des auteurs qui continuent. Le dernier Espadon en 2021, avec Jean Van Damme au scénario et André Julliard au dessin. Aujourd'hui, une reprise par le dessinateur Aubin et les scénaristes Bocquet et Fromental, avec les deux personnages qui se retrouvent face à un piège assez diabolique en Allemagne, avec un discours d'un président bien connu. Alors, à l'occasion de ce nouvel album, nous allons évoquer un album aussi où les héros ont été piégés. C'est l'album numéro 6, dessiné par Jacobs, Le Piège Diabolique. Prépublié dans Tintin en 1960 en France, et c'était au mois d'octobre, avec un décalage avec le Tintin français de novembre. Et par contre, publié en album en Belgique peu de temps après, mais en France, nous avons une censure qui va frapper cet album en 62, et il ne sera distribué qu'en 1972. Il sera largement adapté en disque 33 tours, en jeu vidéo et en dessin animé, et cette année, il a fait l'objet d'une exposition en France, au château de la Roche-Guyon, où Jacob s'était déplacé pour les décors de cette aventure extraordinaire. Et nous avons aussi, pour mieux connaître Jacob, la magnifique BD Jacob, le rêveur d'Apocalypse, dessinée par Philippe Wurm et scénarisée par François Rivière, qui s'était entretenu plusieurs fois avec le maître du 9e art. Alors, Le Piège Diabolique, cet album, dès la couverture, nous sommes étonnés, puisque nous avons un héros en scaphandre, Mortimer, qui tente à échapper à une situation étonnante, puisque nous avons un soleil noir qui apparaît sur cette couverture, mais qui est une espèce de machine étonnante, une machine sphérique qui irradie, et trois strates temporelles, une strate préhistorique avec des dinosaures, des personnes qui émanent du Moyen-Âge et des étonnantes machines drones qui évoquent un futur incertain. Voilà, donc Jacobs est un auteur complet qui a voyagé beaucoup dans le temps et dans les contes et légendes. Il est né à Bruxelles, dans le quartier des Sablons, en 1904. Il nous quitte en 1987. Et Jacobs, au début, se rêvait chanteur d'opéra. Hein. Il a travaillé à Lille, à Bruxelles aussi. Et il a été traumatisé par la Deuxième Guerre mondiale, la perte de son frère. Il a travaillé comme dessinateur de mode pour les grands magasins et il a illustré des contes et légendes pour le magazine Bravo. Peu à peu, il rentre vraiment dans la bande dessinée avec l'idée de dessiner une variation sur Flash Gordon dont les planches sont censurées. Ça va donner, après un premier album, Le Rayon U, inspiré de l'univers de Gordon et qui est un peu une matrice des aventures de Blake et Mortimer, de l'épisode dont nous allons parler. Il a été assistant d'Hergé de 1942 à 1947 et il a travaillé sur 8 albums en 40 ans, donc un travail méticuleux. C'est très beau de voir la qualité des planches de Jacobs. Donc ce 6e album date de 62. C'est une extrapolation romancée, revue de l'expression populaire, c'était le bon vieux temps. C'est un voyage en cercle, en forme d'ellipse. On commence avec Blake et on finit avec lui. Blake est un agent secret, qui est un ami de Mortimer, mais il sera bizarrement absent de cet album. Et c'est une histoire qui est presque sans méchant, puisque Ulrich est absent. Par contre, on a un savant fou, Milok, qui est là, mais qui est en présence fantomatique. Donc c'est très étonnant sur le plan narratif. Donc, pour vous situer la planche que nous allons écouter, nous allons effectivement nous rappeler que dans l'histoire, Milok est un savant fou qu'on a découvert dans SOS Météor, l'épisode d'avant. Il a inventé une machine qui contrôle les intempéries et le climat. Et bizarrement, là, au début de l'album, Mortimer voit que Milok a fait de lui son héritier. Et donc, du coup, il reçoit une clé et il doit se rendre dans un endroit pour trouver un cadeau, un leg. Et donc, il y va. Blake le met en garde, mais il va aller dans un piège diabolique qui se trouve au château de la Roche-Guyon. Milok a inventé quelque chose qu'on appelle un chronoscaf, que Mortimer va découvrir, une machine à voyager dans le temps. Mais quelque part, en lui léguant son invention, il a déréglé le métrage, et notre ami va se retrouver perdu dans l'espace-temps. Il va être obligé de parcourir les siècles à la recherche de l'époque dont il vient. Il va passer par l'ère préhistorique au Moyen-Âge et il va affronter dans un futur lointain un tyran despotique qui a réduit l'humanité en esclavage. Donc là, nous allons écouter une des planches centrales où Mortimer vient de tomber dans la cave du château de la Roche-Guyon et découvre l'invention mystérieuse qui lui a été léguée par Miloc.
Lorsque le professeur reprend ses sens, il ne peut que maudire sa témérité.
Quel damné idiot je fais! Et Miloche, qu'il soit mort ou vif, a bien réussi son coup. Mais s'il croit me laisser moisir ici, il se trompe. Dès après-demain, Blake sera là, et tel que je le connais, il démolira la bicoque pierre par pierre, s'il le faut, pour me retrouver. Ce n'est donc qu'une question de temps et de patience.
À demi rassuré par ce raisonnement, il promène autour de lui un regard étonné et découvre une vaste crypte où luise sous une étrange lumière diffuse une multitude d'appareils sauvagement sabotés qu'un fouillis de fils et de câbles relie encore entre eux. Prudemment, Mortimer, le pistolet au poing, s'avance parmi les débris fracassés de l'étrange laboratoire. Mais soudain, comme il arrive à la hauteur d'une sorte de nef latérale, il reste cloué sur place.
Oh !
Telle une balle géante, une coupole brillante est là, presque irréelle, posée sur une plateforme de métal.
Ah, ça ! Miloche aurait-il dit la vérité ? Serait-ce là ce...
Intrigué et méfiant à la fois, Mortimer s'approche de l'objet. Mais comme il met le pied sur la plateforme, la coupole éclate subitement, découvrant un engin aux formes insolites. Le chronoscaf. Au même instant, une voix profonde, énorme, la voix même de Félix Georgevitch Miloche, l'apostrophe.
Soyez le bienvenu, professeur Mortimer.
D'un bond, Mortimer s'est jeté le dos au mur, essayant de repérer son invisible interlocuteur qui imperturbablement continue.
Je constate avec plaisir, mais sans étonnement, que votre curiosité scientifique a été plus forte que toute prévention. Excusez-moi d'avoir dû refermer la trappe derrière vous. C'était à la fois un test pour éprouver votre sang-froid et une nécessité. En effet, seul un homme doué d'une complète maîtrise de soi peut sans risque tenter pareille expérience et d'autre part, un secret tel que le mien, qui est désormais le vôtre, ne saurait être assez protégé contre la curiosité du vulgaire.
Godam, je comprends. Une bande magnétique enregistrée à l'avance et dont j'ai déclenché la mise en marche en posant le pied sur la plateforme. Ouf, je préfère ça.
Mais déjà la voix reprend. Du ton d'un moniteur donnant son cours de culture physique à la radio. Tandis que silencieusement, la sphère s'entrouvre découvrant un poste de pilotage.
Ceci dit, dans votre intérêt, veuillez exécuter point par point ce qui va suivre. Et d'abord, veuillez revêtir l'équipement spécial posé sur le siège de la machine. Sans lui, vous iriez à une destruction certaine.
Est-ce l'étrangeté du lieu, l'atmosphère bizarre, l'accent persuasif de cette voix d'outre-tombe ? Quoi qu'il en soit, Mortimer, comme subjugué, obéit en surmontant sa méfiance, se met en devoir de revêtir la combinaison qui vient de lui être désignée.
Très bien, vérifiez la fermeture.
Si Blake me voyait, mais tant pis, je prends le risque.
Alors, la structure de ces planches, de cette planche-là, c'est très dense. Hein. On a des planches symétriques, puisqu'en fait, toute la structure de la planche est organisée autour de la case centrale hein, qui nous montre le chronoscaf, qui est une espèce de boule noire avec deux sphères, et donc qui émane une espèce d'énergie mystérieuse. Et au travers de cela, nous avons la découverte et la voix off qu'on a entendue de ce savant qui, on ne sait pas s'il est mort ou vivant, donc on a quelque chose d'assez étonnant. On a bien entendu des postures de Mortimer qui sont des postures très théâtrales. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que Jacobs a toujours travaillé sur des narratifs et des voix off qui sont comme une voix off musicale et qui va contribuer à l'ambiance. Et là, on est dans une ambiance de mystère. Hein, et ce qui va se passer après, puisque Mortimer va rentrer dans le chronoscaf et nous allons rentrer dans un voyage assez étonnant. Voilà. Alors, sur le plan graphique, Jacob rentre dans ce qu'on appelle la ligne claire. Hein, c'est-à-dire que ça a été théorisé après coup, c'est l'idée d'un trait lisible, hein, avec des aplats sans ombre ni profondeur. Mais ce qui va le distinguer d'Hergé et qui va faire qu'il va travailler avec le maître, c'est sa maîtrise de la couleur, des dégradés, hein, qui sont très importants et des différents codes couleurs qui donnent une ambiance particulière aux histoires. Il va être influencé par le surréalisme, par Magritte, par les estampes japonaises. Et au début de sa carrière, il va imiter le style réaliste d'Alex Raymond sur Flash Gordon. Et petit à petit, son style va varier selon les albums pour arriver à une forme de maturation qu'on a dans le piège diabolique que l'on évoque aujourd'hui. Alors, les héros de Jacobs, ils vont par deux en général. Hein. Ce sont deux héros britanniques, inspirés par des amis d'Edward P. Jacobs. Mortimer, le savant, qui est inspiré par un peintre, Jacques Van Melkebe, qui aura quelques problèmes avec la censure et avec ses opérations pendant la guerre, où il était proche quand même d'une forme de collaboration avec le pouvoir. Blake, lui, c'est un faire-valoir, qui est un militaire, qui est un adepte du déguisement et qui est inspiré du dessinateur Jacques Lodi. Et bien entendu, souvent, Blake va sauver Mortimer, mais là, Mortimer va être plutôt seul. Et on voit bien que le héros que Jacobs préfère, c'est Mortimer, vraiment. Et d'ailleurs, dans cet album, à la page 32, la case 3, on voit une biographie de Mortimer qui est donnée par où les gens du 51e siècle trouvent la. Et cette biographie, elle est à la fois vraie et fausse, c'est étonnant. Disons que Mortimer apparaît comme une légende, le second docteur Faust. Il a exploré la pyramide de Khéops. Il a inventé le télécéphaloscope. Alors là, c'est une erreur parce que c'est Septimus qui a inventé ça. Donc pourquoi Jacobs, cette invention un peu diabolique, est attribuée à Mortimer, c'est assez étonnant. Il aurait retrouvé l'antique Atlantide et il aurait expérimenté le chronoscaphe. C'est ce qui se passe dans l'album. Et ce qui est étonnant, c'est que on oublie l'invention de l'espadon, le drone de combat, hein, que Van Hamme va reprendre. Et Van Hamme, quand il reprend le personnage dans 2021, il met quelque chose qui est important, c'est l'ambiguïté du savant. C'est-à-dire que Mortimer est quelqu'un qui crée quelque chose, mais c'est quelque chose qui peut être aussi une arme de destruction. Malgré tout, ce personnage de Mortimer est un symbole pour Jacob de la loyauté et de l'engagement humanitaire pour effectivement essayer d'améliorer le sort du monde. Alors, le grand absent de cet album, c'est Ulrich, en dire quand même un mot. C'est que Ulrich, étonnamment, c'est un autoportrait de Jacobs lui-même. Il est inspiré du mari de sa deuxième épouse, Jeanne, mari avec qui il était en bisbille, forcément. Il serait inspiré d'un espion international réel, selon Hubert Védrine. En tout cas, on voit un personnage de dandy, soufif, qui veut devenir calife à la place du calife, et une forme de variation sur Arsène Lupin, et on va le retrouver dans l'album d'après, hein, qui sera l'affaire du collier, puisque cet album, Le piège diabolique, va valoir à Jacobs un certain nombre de critiques, où il va donc revenir après sur un album qui ressort d'ailleurs en ce moment dans sa version originale, un album beaucoup plus classique et moins intéressant que celui que nous évoquons. Alors, le grand méchant qui est à la fois présent et absent de cet album, c'est un savant fou, c'est Miloš Georvitch, qui est un enfant de la guerre froide. Hein, dans SOS Météor, l'album précédent, il était aux ordres des pays de l'Est, c'est un physicien qui domestique la foudre en boule, et qui permet de dérégler sur commande le climat. Et là, Jacob se documente sur les travaux de Gaston Planté, qui aurait réfléchi à ça. C'est vrai que la question climatique, aujourd'hui, elle est posée un peu dans ces domaines-là. C'est assez étonnant. Ce Miloš serait mort suite à l'explosion de la station Cyrus en France. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'hypothèse que nous avons là, Miloš remettrait en théorie la théorie d'Einstein sur la relativité et rendrait possible des allers-retours dans le temps. Le visage de ce savant est inspiré par Henri Miller. Henri Miller qui a fait les désaccès. Et on peut dire que Miloš est une espèce de symbole du démiurge et aussi peut-être du scénariste, parce qu'en fait, il va s'amuser avec Mortimer et Jacobs a toujours aimé les personnages ambigus. Alors, sur le fond, dans les histoires que nous raconte Jacobs, on a effectivement la grande tradition des romans feuilletons du 19e siècle, Conan Doyle pour Le Monde Perdu. Aussi, précisément, hein, dans ce qu'on lit là, hors George Wells pour La Guerre des Mondes, Jules Verne pour Le Merveilleux Scientifique, donc bien entendu le Faust de Gounod, hein, qu'il a joué en opéra, le cinéma expressionniste allemand, hein, Lang, Murnau, et ce qui est très intéressant, c'est à chaque fois les mélanges des genres, hein, l'aventure, la géopolitique, le polar, la science-fiction. Donc dans la série, on fait un voyage un peu, un melting pot de tout cela. Les grandes thématiques de Jacobs, c'est toujours l'enjeu de sauver un monde au bord de l'apocalypse. Alors, les trois époques que l'on voit dans cet album, c'est des époques préhistoriques. On retrouve l'ambiance du monde perdu de Conan Doyle. Le Moyen-Âge, où on retrouve aussi une série qui a été avortée puisqu'il y avait trop de séries historiques. Jacobs voulait faire une version de Roland Le Hardy. Et là, on retrouve l'ambiance moyenâgeuse qu'il aimait beaucoup dans l'illustration des contes qu'il a fait. Et le futur, l'année 5060, et là où on est dans l'imagerie de George Wells et dans l'imagerie du Rayon U. Donc là, vraiment, avec cet album, on a une synthèse de tout l'art de Jacobs. Et aussi, dans ce futur de l'an 51000, on a l'idée d'un monde post-apocalyptique nucléaire. Et donc, on a un docteur Phocas qui est asiatique et qui est le parallèle du méchant Bassam Badu du début, qui était plutôt un leader négatif, et lui, ça serait plutôt le leader de la résistance. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue avec les pays asiatiques, soit en termes de contrôle du leadership ou de sauvetage du monde. Il est clair que Jacobs, dans toute son œuvre, nous fait partager cette peur de la Troisième Guerre mondiale et de la menace nucléaire, de la dérive de la science. On le voit après dans les hypothèses autour de Sato, du clonage, de l'idée que, effectivement, l'œuvre inachevée de Jacobs sera les trois formules du professeur Sato, où il nous met en avant sur les dérives de la robotique et de la technologie des drones et du clonage. Donc ça, c'est très intéressant, puisqu'il est donc toujours dans l'esprit du temps. Alors, si on veut analyser maintenant l'album et puis plus largement qu'est-ce que cette œuvre apporte, eh bien, on peut le voir que Jacobs actualise le mythe de Faust, tant vis-à-vis de Mortimer, hein, même son héros principal, on le voit bien dans la fausse biographie qui est trouvée dans l'album, et qu'il va ancrer le fantastique dans le réel. Ça, c'est très très important. Cet album, comme je l'ai évoqué, ne va pas plaire en France. On va lui reprocher sa violence et la hideur des images. Bah, je vous laisse acheter l'album, le parcourir, vous verrez comment ces images sont tout le contraire d'ailleurs. Et on voit effectivement dans cet album quelque chose qui est en sous-marin, en sous-texte, et le motif récurrent d'un monde souterrain, hein, c'est-à-dire qu'on retrouve chez Jules Verne. Et cette idée aussi que quand il était petit, Jacobs avait failli mourir noyé, et ça, je pense que ça l'a marqué. On a la crypte d'un château réel, château aussi qui est au cœur des aventures de Tintin avec Moulinsart. Hein. Et plus loin, la symbolique de l'œuvre de cette histoire de bien et de mal, de trio infernal avec Ulrich, Blake et Mortimer, c'est la question de l'ombre que Jung a mis en avant. L'ombre de la science, l'ombre du monde, le yin et le yang. Et voir éventuellement une allusion à la métempsychose, hein, c'est-à-dire ce Mortimer qui voyage dans différentes époques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, Mortimer, c'est la première fois que ça arrive, a brisé le quatrième mur et s'adresse directement à nous, spectateurs, en nous disant « mais qu'est-ce qu'on tire comme leçon sur la question du bon vieux temps ?» Donc ça, c'est quand même assez inédit en bande dessinée. Voilà. Donc ceci explique peut-être que l'œuvre de Jacobs fascine encore plein de dessinateurs et a une grande postérité. Postérité dans la série L'Aventure Immobile, où on a inventé une vieillesse, et André Julliard et Didier Conrad qui s'amusent à nous montrer des héros vieillis. Il y a François Skuyten avec Jaco van Dormael et Thomas Gunzig qui fait une magnifique variation sur la Grande Pyramide avec le Dernier Pharaon. Et enfin, un certain nombre de dessinateurs comme Ever Mullen, Yves Chaland qui vont être inspirés par l'univers Jacobs, qui vont continuer. Bien entendu, les plus connus, ce sont les repreneurs de l'univers depuis 1996, les éditions Blake et Mortimer. On a un cahier des charges avec 10 commandements très précis. Et on a un grand succès éditorial, à peu près 400 000 exemplaires vendus par série. On a une série, on a à peu près à 28 tomes maintenant. Des grands dessinateurs comme Tête de Noix, André Julliard, Caillot, Aubin, des grands scénaristes, Yves Sand, Jean Van Hamme, multiplient et on a plusieurs équipes qui continuent à animer les personnages de Blake et Mortimer. Voilà. Donc pour conclure, avec le beau titre de la biographie de François Rivière, on peut dire que Jacobs est un rêveur d'apocalypse. Et que aujourd'hui, bien entendu, la série dépasse le nombre d'épisodes d'Edward P. Jacobs, qui en fera juste 8. Alors 8, c'est le nombre de l'infini. Je pense qu'il est arrivé avec ses 8 albums à faire vraiment le tour d'un imaginaire, d'un merveilleux fantastique. Et Le Piège Diabolique, c'est presque l'opus magnum d'Edward P. Jacobs. On pourra relire ce qu'il en dit dans sa biographie Un opéra de papier, page 157. Et ce qui est intéressant, c'est cette vision sur le bon vieux temps que je vous livre, puisque c'est une philosophie, on dit toujours c'était mieux avant, et pour Jacob, c'est très clair, le bon vieux temps n'a jamais existé et n'existera jamais, sauf peut-être dans l'autre monde, et ça il le dit texto, et encore rien de moins sûr. Donc Jacob peut-être pense qu'il y a quelque chose après la mort, mais il est épris de doutes quand même. Et il renvoie, un peu comme Hergé avec Tintin et les Picaros, renvoie dos à dos les nostalgiques d'un passé traditionnel merveilleux et les utopistes d'un futur révolutionnaire. Donc on a quelqu'un qui cherche une troisième voie. Hein. Et en tout cas, on peut dire que si Edgar P. Jacobs est toujours vivant dans l'esprit et que Blake et Mortimer est toujours là, c'est qu'il a réussi à nous faire rêver en mélangeant onirisme et réalisme. Il a opéré une forme de conjonction des opposés chère aux alchimistes. D'ailleurs, un des épisodes de la série de la bande dessinée parle du trésor de Nicolas Flamel. On ne l'a pas en bande dessinée, mais on l'a en film d'animation. Et c'est assez logique de voir ce rapport à l'alchimie qui apparaît à un moment donné. Et enfin, pour terminer, on peut remercier Edgar Jacobs pour nous avoir rappelé quel est le pouvoir de l'imagination. Et en le citant, se dire que le pouvoir de l'imagination, c'est un contre-feu magnifique aux catastrophes de notre modernité, qui permet peut-être à l'homme de se réveiller et à sortir de la dualité que symbolise cette magnifique série qui est toujours chère à nos cœurs et que l'on redécouvre avec la nostalgie de notre enfance retrouvée. Merci, Monsieur Jacobs, pour nous faire rêver d'Apocalypse.